d'autrui, hein, à travers le rendement de portefeuilles financiers. Vous avez des portefeuilles financiers donc qui financent la santé. Aux USA, on n'a pas supprimé la propriété lucrative pour financer la santé. On passe toujours par le marché des capitaux pour financer la santé. Moyennant quoi, pour un système de santé qui n'est pas meilleur que le nôtre, hein, il n'est pas pire non plus, il ne faut pas en faire une description qui serait inutilement apocalyptique, mais pour un système de santé qui n'est pas meilleur que le nôtre, il dépense 15% du PIB pour la santé, alors que nous, c'est en moyenne en Europe, c'est 10%. Pourquoi ? Parce que nous avons décidé, en 1945, pour la France, à peu près à la même époque pour d'autres pays, de nous débarrasser du marché des capitaux pour financer la santé. On a fait une cotisation qui ponctionne 10% sur le PIB et qui finance la santé. Pourquoi est-ce que...
On ne se débarrasserait pas de ces parasites pour le reste.
Mais bien sûr, on le fait aussi pour la retraite. La seule façon, en dehors de la solidarité familiale qui jouait pour le meilleur et pour le pire, et qui continue à jouer dans les sociétés où il n'y a pas de sécurité sociale, comment est-ce qu'on pouvait assurer ces vieux jours ? Par du patrimoine. Alors on vendait son fonds de commerce, etc., etc. On s'est débarrassé de la logique de la propriété lucrative pour financer les pensions. Et ça marche. Ce sont les pays d'Europe, la statistique elle est vraiment éloquente, ce sont les pays d'Europe qui financent sans épargne les pensions qui ont le meilleur taux de remplacement, ce qu'on appelle le rapport entre la première pension nette et le dernier salaire net, et qui ont le plus fort pourcentage de retraités parmi les plus de 60 ans. Il n'y a pas photo, là. C'est parce qu'il n'y a pas d'accumulation financière, parce que nous ponctionnons directement sur la valeur ajoutée une cotisation qui va à une caisse qui distribue les pensions, que ça marche. Pourquoi continuer à passer par des parasites qui, en plus, ne prêtent pas ? Ils sont dans l'impasse aujourd'hui, absolue, où ils ne prêtent qu'à des taux absolument rédhibitoires. Ils nous prennent en tenaille, ils nous prennent sous le... Enfin, je n'insiste pas sur l'énormité, le caractère inadmissible, illégitime de la ponction de la dette sur nos vies individuelles et collectives. Écoutez, finissons-en. Nous allons consacrer 30% du PIB à l'investissement, ce sera plus qu'aujourd'hui. On le fera directement par une cotisation économique sur le modèle de la cotisation sociale.
1, 2, 3. C'est diablement bien fait. J'aurais jamais dit que c'était aussi chiadé. Je ne me croyais pas aussi semblable. Diable. Mais il faudra bien que je m'y fasse. Un de ces quatre à la lutte des classes. Fichtre, c'est bigrement boutiqué comme un massacre à l'économe. Je ne me croyais pas aussi friable, diable. Mais il faudra bien que je m'y fasse. Un de ces quatre à la lutte des classes. Merde, nos rangs sont assez dépareillés, nos généraux soudoyés. J'ai jamais vu d'armée aussi minable, diable. Mais pourra-t-on toujours faire l'impasse, mine de rien, sur la lutte des classes?
Continue avec Bernard Friot, l'enjeu du salaire, son dernier bouquin qui sort aux éditions de La Dispute. Les auditeurs sont en train de se dire, bon, on a compris, là-bas, si j'y suis, c'est une fois des gens qui viennent nous expliquer comment finir avec le conflit israélo-palestinien en créant un État commun. Et là, aujourd'hui, c'est un autre utopiste, Bernard Friot, qui vient nous dire qu'on peut mutualiser la richesse et qu'on peut très bien sortir au fond de l'exploitation. Mais je suis sûr que ce qui court dans les têtes depuis le début de cet entretien, Bernard, c'est oui, mais le chômage là-dedans, parce que c'est la préoccupation. Numéro un, on voit bien que avec la proximité de ces élections présidentielles, le souci numéro